des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Émilie Julia.
Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Jean-Philippe Collard, pianiste bien connu des amoureux de la musique classique, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Bienvenue dans cette émission. Votre carrière est impressionnante, donc je reviens à vos débuts. Vous intégrez le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris au début des années 60. Vous obtenez le premier prix de piano en 1964, c'est une date clé pour vous. D'autres grands prix vont suivre et votre carrière devient vite internationale. Vous partez au bout du monde et vous nous raconterez comment vous le vivez. Au total, votre discographie compte plus de 50 titres. Vous parcourez les plus prestigieuses scènes, vous jouez avec les plus grands chefs d'orchestre, vous recevez en 1988 une victoire de la musique comme soliste de musique classique de l'année. Dans tout ce parcours, quelle a été la période la plus marquante? Ce sont des moments très forts. Est-ce qu'à chaque fois, vous le revivez de la même manière?
C'est-à-dire que, naturellement, il y a plusieurs étapes dans l'établissement d'une vie d'un musicien.
C'est un processus.
Oui. Alors, aussi loin que ma mémoire remonte, je pourrais dire que mon passage au conservatoire, que vous venez de citer, alors que j'étais tout jeune, a été en effet un élément marquant, mais pas forcément dans le sens où on pourrait l'entendre. Disons, j'ai un peu souffert de cette période. C'est une période très difficile parce qu'on est en pleine adolescence, on est décramponné d'un parcours d'études normales, plus de lycée, plus d'amis, plus de vacances, et puis plongé dans un univers où déjà on sent que les dents sont aiguisées, que les professeurs se font la gueule parce qu'ils voudraient avoir les meilleurs élèves, aucune ambiance particulière pour générer des amitiés, des choses comme ça. Donc finalement, j'ai été marqué par cette période et par ce diplôme que j'ai eu, mais dans un sens négatif, c'est-à-dire j'ai été content d'en sortir en fait, avec le sentiment de ne pas avoir appris grand-chose, il faut bien le dire, parce que j'étais très jeune. J'avais 16 ans quand j'ai été jeté sur le trottoir de la rue de Madrid à l'époque. Alors on avait beau dire que j'avais beaucoup de talent, que c'était formidable. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de presse autour des concours du conservatoire. Il y avait toujours les grands journaux étaient présents. Donc j'ai été mis un peu sur un piédestal alors que je jouais encore en culotte courte ou à peu près. Et j'ai éprouvé une grande solitude en sortant de cette école. Je me suis dit, mon Dieu, je ne suis pas fait encore, je ne suis pas formé pour partir en voyage à 16 ans, vous imaginez. Qu'est-ce que je vais faire? Avec qui je vais travailler? Donc, je continue de considérer que c'était une grande erreur de la part de l'école qui m'a formé, ou du moins qui a tenté de me former, que de me laisser partir comme ça, même si j'avais des facilités pour m'exprimer sur un clavier. Donc, après une période très difficile, où mes parents ont dû faire le sacrifice de me payer des cours privés, et où finalement, je ne savais pas très bien où j'allais. J'ai dû, alors je le dis sans aucune forfanterie, j'ai dû probablement à ma force de caractère et à la lucidité de mes parents, de traverser cette période sans de réels dégâts sur ma personne.
Comment vous avez fait pour vous trouver vous-même? Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour qu'ils se trouvent lorsqu'ils sont dans ce type de travail, dans ce type de configuration? C'est extrêmement dur pour les jeunes de vivre cette vie-là.
Je veux dire, j'ai eu sans doute deux chances. La première, c'est de ne jamais avoir d'ambition particulière pour ce métier. C'est-à-dire que j'y ai été conduit d'une manière tout à fait naturelle par l'ambiance musicale qui régnait au sein de ma famille, qui était une ambiance de musicien amateur, mais depuis des générations. Donc il y avait une vraie force culturelle. On écoutait les concerts du dimanche à la radio. Mes grands-parents faisaient de la musique de chambre le dimanche après-midi. Enfin, il y avait toutes sortes de choses qui font que la musique devient un élément naturel de votre existence. Pour autant, je ne rêvais ni de projecteur, ni de devenir un grand pianiste, ni de jouer avec les grands chefs. Tout ça m'était parfaitement indifférent. Ce qui me plaisait beaucoup à l'époque, c'est que je quittais mon nid familial au nez et à la barbe de mes frères et sœurs et que je devenais parisien alors que nous habitions à la Champagne. Vous allez voir, vous me direz que ça n'a rien à voir avec la vie que je mène aujourd'hui, mais c'est comme ça que je m'en suis sorti. Et le deuxième élément, c'est que j'ai eu un grand appétit, alors celui-là énorme, pour une vie personnelle équilibrée, pour une vie de famille complète. Si bien que dans mon axe de vie à cette époque, au moment où s'est dessiné le début de ma carrière et le début de ma vie d'homme, en quelque sorte, eh bien, les deux plateaux de la balance étaient exactement chargés de la même manière. Et je n'acceptais pas, par exemple, de partir longtemps en voyage. Je voulais retrouver mes enfants, je voulais les voir grandir et tout ça. J'ai toujours un peu souffert, justement, de voyager alors qu'ils étaient petits, mais j'ai toujours limité ça. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que finalement, j'avais, j'allais dire, si peu d'ambition, je peux me permettre de parler comme ça, que finalement, je n'ai jamais été déçu. Au contraire, j'ai toujours vécu cette vie de musicien avec des petites chances qui se sont présentées d'une manière très équilibrée. Et puis aujourd'hui, je suis contraint de dire que ma vie est très heureuse parce que justement, elle n'est pas au premier plan. Je ne suis pas le sujet de soubresauts médiatiques. J'ai la vie que j'ai envie d'avoir.
Vous vous protégez ?
Oui, de cette manière-là, pour des raisons qui sont liées à la terre, ou à ma naissance dans un village. Et surtout, au fait que pour moi, la musique, c'est le plaisir de mes parents et de mes grands-parents. C'est le plaisir du partage musical. C'est pas les vivas, les bravos, les projecteurs, les réceptions, les comtesses. Je ne suis pas du tout dans... Alors, je crois que c'est ça la vraie protection. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes, naturellement, qui aspirent à ce métier. Quand ils viennent me voir, j'essaye de déterminer quelles sont leurs envies profondes. C'est rarement, je dois le dire, c'est rarement la musique. C'est rarement le fondamental. C'est rarement le développement de la personnalité au travers de la musique. C'est... Mon Dieu, la vie de pianiste est un métier, l'accession à la notoriété est indispensable, la concurrence, ils n'y font pas très attention, ils sont chacun dans leur petit système, ils sont évidemment très attentifs aux concours internationaux qui va les mettre un petit peu en lumière, mais j'ai toujours envie de leur dire, mais justement cette lumière-là n'apporte rien à la beauté de la musique, mais chacun utilise les moyens qu'il a envie d'utiliser. Hein. Mais pour résumer tout ça, j'observe qu'il y a beaucoup de prétendants, et qu'il y a peut-être ces temps-ci un petit déficit d'activité musicale et de public capable de digérer toute cette arrivée de jeunes artistes.
Il y a beaucoup de pression sur les jeunes artistes également.
Fatalement, puisqu'il faut faire sa place, il faut... Alors, c'était
la
déjà
concurrence
pas
est rude.
Oui, oui. Et vous savez, nous, je ne vais pas parler comme un vieux monsieur...
Votre expérience intéresse les autres.
Oui, j'ai quand même un petit peu de... Enfin, disons que j'ai quelques cheveux blancs, donc je peux parler, mais c'est vrai que moi, je suis sorti, on va dire, dans une période où les médias avait un intérêt pour la musique classique. On va parler de Jacques Chancel d'un mot. Le Grand Échiquier, en France, a été une plateforme extraordinaire pour les musiciens classiques. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais il y avait aussi des revues musicales. On parlait, dans les grands quotidiens nationaux, on parlait des concerts, il y avait des critiques, il y avait des interviews, il y avait plein d'activités qu'aujourd'hui, nous n'avons plus. Et donc, pour ces jeunes, c'est très compliqué de se faire connaître. Ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils peuvent faire des disques, éditer des CD à tour de bras pour peu d'investissement, et que c'est un véritable passeport, ils peuvent le distribuer, l'envoyer par Internet, se mettre sur YouTube et tout ça. Ils ont des moyens de communication qui sont supérieurs à ceux qu'on avait. Mais la musique faisait à l'époque plus partie intégrante de la vie courante, alors qu'aujourd'hui, elle est un tout petit peu marginalisée.
Comment êtes-vous venu à la musique ? Donc vous disiez vos parents, votre famille vous a initié, vous a fait baigner dans cet univers-là. Est-ce qu'il y a d'autres déclencheurs à cet amour et à cette carrière ?
Non, je vous dis, les débuts, quand nous étions jeunes, mes frères, sœurs et moi, on allait au piano, je veux dire, 10 minutes par jour quand on avait 5 ans, 20 minutes quand on avait 6 ans, and so on. Et s'est trouvé que moi, ça allait beaucoup plus vite que les autres. Bon, d'où un cheminement un peu différent. Puis à 10 ans, la question terrible, ça, mon père, je le vois encore, qui me dit, écoute, voilà, il y a un professeur du conservatoire qui t'a entendu dans une audition, là, en province, à Épernay, dans cette ville d'Épernay qui m'est si familière. Cette femme nous a dit, ben voilà, votre fils est doué, il faudrait tenter de l'emmener. Alors moi, j'ai reçu cette information... avec pas mal de, comment dirais-je, enfin avec une certaine sérénité, mais derrière ma pensée, il y avait « je vais me singulariser, je vais aller à Paris, je vais prendre le train, je vais aller voir la Tour Eiffel, je ne vais pas aller en pension comme mes frères et sœurs ». Donc pour moi, ça a été ça mon premier réflexe. Et peu à peu, je me suis fait cette singularité, et puis surtout, j'ai commencé à recueillir les premiers fruits, les premiers lauriers, et il est inutile de vous dire que quand la vie comme ça vous fait bénéficier d'un petit retour éloquent sur le développement de votre activité artistique, c'est un bienfait, sans en tirer gloriole, c'est un bienfait qui vous réchauffe le cœur et qui donne raison aussi au risque considérable qu'ont pris mes parents de décider de m'envoyer dans ce métier.
Vous avez joué les plus grands pianistes, les plus grands compositeurs, Fauré, Ravel, Saint-Saëns, etc. Est-ce qu'il y a parmi tous ces compositeurs un que vous préférez ? Et un que vous aimez particulièrement jouer ?
Oui, disons que la musique française est très chère à mon cœur. Elle est très chère pour deux raisons, parce que je l'aime profondément, parce que c'est la musique de mon pays, c'est la musique de mes paysages. Et puis je l'aime particulièrement aussi parce que j'ai à cœur de la défendre dès que je franchis une frontière. Et il en va ainsi de Gabriel Fauré, par exemple, dont j'ai entendu la musique de chambre quand j'étais petit, j'y faisais allusion, qui m'a servi un peu de piédestal alors que j'enregistrais mon premier disque et que je l'ai consacré à Gabriel Fauré, ce qui était une gageure parce que personne ne touchait à ce répertoire, mais il se trouve que ça a très très bien marché. Et puis que je me suis trouvé des accointances avec ce compositeur, pour X et X raisons, parce que ma musculature aussi s'adapte bien au clavier de Gabriel Fauré. Et puis, à force d'en jouer, j'en ai fait un peu un compagnon. Donc il reste probablement le compositeur que j'apprécie le plus dans l'intimité de ma personne. Mais c'est un compositeur qui, premièrement, n'est pas reconnu nulle part, encore moins en France qu'ailleurs d'ailleurs. Et en plus, qui n'est pas véritablement un compositeur de concert. Ce ne sont pas des pièces brillantes, donc il ne viendrait pas à l'idée qu'on en joue une demi-heure ou 40 minutes. Il faut sélectionner des pièces et tout ça. Mais c'est probablement celui qui est le plus proche de moi. Et puis les impressionnistes, enfin ceux qui sont qualifiés comme tels, comme Debussy et Ravel, naturellement, sont des compagnons aussi, oui. Ouais. Mais vous savez, la musique est large,
c'est
généreuse.
Très large.
Et quand je regarde ma bibliothèque avec tous ces cahiers qui sont disposés là et dont je sais que je n'ai travaillé qu'une infime partie et que je me dis qu'il faudrait je ne sais combien de dizaines de vies pour jouer toutes les sonates de Clementi, les sonates de Beethoven, de Mozart, tout ça. C'est inouï le nombre de chefs-d'œuvre qu'il y a là et moi je ne fais que mettre des petits cailloux sur un chemin musical que j'aime et que j'essaye de maîtriser au mieux que je peux. Oui.
Vous voyagez beaucoup pour votre carrière, vous allez où principalement? Comment ça se passe? Comment vous voyagez, en fait?
En fait, j'ai eu un élément marquant aussi, vous en parliez au début de cet entretien, c'est qu'un jour, j'ai eu une grande surprise. C'est une toute petite anecdote que je vais vous raconter. À l'époque de mes 22-23 ans, je n'étais donc plus au conservatoire, j'étais un peu en difficulté. Parce que
questionnement.
Puis je n'arrivais pas à m'évaluer par rapport à tout ça. Et mes parents, eux-mêmes, sans me le signifier précisément, étaient assez inquiets. Alors, ils ont cherché à me faire entendre par des oreilles externes à mon cheminement. Et ils ont ainsi obtenu, ce qui était une chose assez rare, je peux le dire maintenant parce qu'il n'est plus de ce monde, un rendez-vous avec Robert Casadesus, qui était un pianiste célébré à l'époque. Et mes parents se sont dit, on va recueillir son opinion, mais comme ça on va savoir où en est notre fils. Bon. Et je suis allé chez M. Casadesus avec beaucoup de vénération, avec maman, je me souviens. Et l'entretien, il m'a accueilli d'une manière assez froide, mais ça je le savais parce que c'est une personnalité très réservée et tout ça. Il m'a demandé de me mettre au piano et au bout de 20 minutes, il a regardé ma mère et dit « Écoutez, ça suffit comme ça, très gentiment, très courtoisement. J'en ai assez entendu. Quel âge a votre fils ? 22 ans, répond maman. Eh bien, écoutez, madame, je pense qu'il est temps que votre fils songe à un autre métier. » Et alors là, le monde s'est écroulé. « Combien je vous dois, mon cher maître ? X centaines de francs à l'époque.
Oh, » c'est terrible.
Et nous nous retrouvons sur le palier et la porte claquée, je me suis véritablement effondré. Ça peut arriver à tout le monde. C'est généralement, si les parents sont derrière, s'il y a du soutien, c'est générateur d'une énergie. J'ai toujours réagi comme ça quand j'ai subi des échecs. C'était pas le premier. Ça m'a donné de l'énergie pour
me venger. Là, vous vous êtes dit, il faut que je me batte pour lui prouver l'inverse.
Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et le destin m'a donné un petit coup de main. Puisqu'un jour, on va dire 3 ou 4 ans après cet entretien, j'ai reçu un coup de téléphone de l'orchestre de San Francisco. Et je ne parlais que très mal anglais. Et une dame me dit, je suis la secrétaire de Seiji Ozawa. Et voilà, et le maître voudrait vous parler, est-ce qu'il peut vous appeler dans une demi-heure?
J'ai dit, écoutez... Seiji Ozawa.
Alors, je pensais que c'était une blague, mais je n'ai pas osé le dire à la dame, puis mon anglais n'était pas assez...
Membre de l'Académie des Beaux-Arts actuellement.
Oui, je sais, d'ailleurs. Oui, j'ai d'ailleurs rencontré quand il est venu. Et en effet, une demi-heure après,
il
m'a dit, est-ce que vous jouez le concerto en sol de Maurice Ravel? J'ai dit, écoutez, maestro, oui. Il me dit, il se trouve que nous avons une annulation dans 3 mois, et j'ai entendu que vous aviez les capacités et tout ça. On m'a dit, je me suis renseigné, vous seriez l'homme de la situation pour nous sauver l'affaire.
Formidable.
Alors, évidemment, je me suis mis au travail encore plus, et puis je suis allé à San Francisco, où j'ai donné une série de 5 concerts. D'abord, j'ai rencontré le maestro, ce qui n'est pas mince affaire. J'ai donné ces concerts avec une espèce de, je vais dire peut-être de culot. Vous savez, c'est quand on est jeune comme ça, j'étais moins nerveux que je ne le suis maintenant, c'est quand même paradoxal. J'ai joué ces concerts qui ont été accueillis par la presse pour de bonnes ou de mauvaises raisons, d'une manière extraordinaire. Et ça a déterminé ma carrière aux États-Unis, en fait. Ça a été le début de concerts innombrables aux États-Unis. Tout ça pour répondre un peu longuement à votre question. L'international, pour moi, passe par les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Amérique du Sud.
Obligatoirement.
Pas obligatoirement, mais disons que j'y vais d'une manière très, très régulière. Mm-hmm. J'y vais 3, 4, 5 fois par an pour y faire des tournées et tout ça. Voilà.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup.
Pardon, j'ai oublié la fin de l'histoire.
Ah, bah, racontez-la nous.
Oui, oui, c'est quand même le plus important, parce que je suis parti de Robert Casadesus pour arriver à Robert Casadesus, parce que quand je suis arrivé quand je suis arrivé à San Francisco, j'ai découvert que c'était pour remplacer M. Casadesus qui était malade.
Non,
voilà.
D'accord.
Pardon, je suis pas allé jusqu'au
bout l'histoire est intéressante. L'histoire est très, très étonnante. Voilà. C'est comme quoi la boucle était bouclée.
Ouais, ouais.
Vous auriez fait quoi? Quel aurait été votre deuxième métier si vous n'aviez pas été pianiste, M. Collard?
Ça va beaucoup vous décevoir. J'aurais essayé de faire Sciences Po. J'espère l'ENA. et j'aurais fait de la politique.
La politique vous intéresse ?
Oui, je vais vous dire pourquoi la politique m'intéresse. Au même titre que la musique, mon père, musicien amateur, pratiquait la politique. Mais d'une manière qui n'est pas celle qu'on imagine quand on dit le mot politique, il était simplement maire de son pays et il s'occupait des autres. Et j'ai trouvé que c'était une mission absolument extraordinaire. Il a été maire de notre village natal, de 1700 habitants tout de même, pendant 36 ans. Et je l'ai vu s'occuper des gens, je l'ai vu nous raconter les problèmes des gens, je l'ai vu souffrir avec les gens. Alors voilà, j'aurais adoré faire de la politique.
Adopter la cause humaine peut-être,
et, oui, et puis,
pouvoir changer des choses.
Et puis ça ne vous a pas échappé que j'aime bien parler et j'aime bien essayer de convaincre. Voilà, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. J'ai navigué à côté de la politique depuis des années, j'ai beaucoup d'amis dans ce domaine. Des gens que je respecte beaucoup pour la qualité de leur pensée et tout ça. Et ça m'émoustille.
Est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà essayé de changer des choses, notamment dans le monde de la musique ?
Oui, j'ai frappé aux portes des ministères successifs, c'est-à-dire la culture et l'éducation, pour essayer de vendre des petites idées, de transmettre mon message à destination de populations qui ne sont pas vraiment dotées de salles de concert, des choses comme ça. Donc j'ai fait une association, puis on a fait un projet pilote au temps où François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Et c'est un projet qui n'a pas abouti parce qu'il n'est pas resté suffisamment longtemps. Mais enfin, j'ai toujours eu cette espèce de vocation pour retourner à des racines villageoises déjà. C'est la terre, vous savez, c'est un truc terrible, on ne peut pas s'en défaire. Je ne suis pas un urbain. J'y arrive pas, j'ai été contraint de vivre à Paris. J'adorais certains aspects, bien sûr, mais la réalité des choses, c'est la terre, c'est les fleurs, c'est le jardin, c'est l'herbe, c'est la pluie, c'est le vent, c'est le brouillard. Et c'est pour ça que je suis si malheureux dans des hôtels, vous savez, tous ces hôtels impersonnels qu'on croise, et dans les aéroports, mon Dieu, c'est épouvantable. Enfin bref, alors j'ai navigué à côté de la politique comme ça. Inutile de vous dire qu'on m'a fait des propositions multiples pour que je m'engage. Mais pour moi, c'était absolument impossible. C'était partager mon public en leur disant, enfin, en disant aux gens, voilà, puisque je suis de ce bord-là, les autres ne sont pas admis. Enfin, ça posait des tas de problèmes. Mais ça a toujours été, c'est toujours quelque chose qui m'a animé. Je continue d'avoir un regard très vif sur ce qui se passe en France et dans le monde. Oui.
Si on veut vous écouter, donc en dehors de vos CD, de vos concerts, on peut vous écouter, je crois, chaque année, fin juin, aux Flâneries musicales de Reims. Vous pourriez nous parler de cet événement ?
Oui, alors d'abord, Reims, c'est ma source, c'est la Champagne, c'est le Champagne aussi. C'est une région que j'aime beaucoup. Et quand on m'a demandé de poser ma candidature pour devenir le directeur artistique des Flâneries musicales de Reims, qui est un énorme événement, j'ai d'abord hésité. Ma femme m'a convaincu d'accepter. Et puis, j'ai été nommé et je suis donc responsable de la production, de l'élaboration de 48 concerts en 3 semaines, ce qui est une chose considérable. Et cette fois-ci, je suis de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, pour une fois, j'ai plaisir à aller au concert parce que j'en ai fabriqué le programme et j'en ai choisi les artistes. Vous vous rendez compte d'un luxe absolument inouï. Moi qui ne mets jamais les pieds au concert dans l'année régulière parce que je suis fatigué d'avoir travaillé 8 heures ou 10 heures mon instrument, j'ai envie de penser à autre chose. Eh bien, cette fois-ci, je vais au concert, j'écoute de la très belle musique et je me rapproche surtout de ma terre natale. On y revient encore. Et c'est une grande joie de pouvoir avoir cette activité. Et surtout, enfin, je vais vous donner 2 détails qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais qui sont quand même significatifs. Directeur artistique de ce festival induit que je suis salarié. Ça peut vous paraître complètement invraisemblable, mais je n'ai jamais, jusqu'à l'âge que j'ai, c'est-à-dire près de 65 ans, je n'ai jamais été salarié. J'ai toujours été pigiste, intermittent du spectacle, avec tout ce que ça peut comporter, vous imaginez. Il y a des saisons qui sont belles et des saisons où il n'y a rien.
Absolument.
Et là, tout d'un coup, j'ai cette attache. Ce n'est pas que je gagne beaucoup d'argent.
Une régularité.
Mais voilà, c'est ça. Et je regarde ça avec des yeux d'étudiant, quoi, en disant, mais je suis embauché.
Ça y est, part. Enfin, j'ai obtenu un poste stable.
Oui, je n'aurais jamais lutté pour ça, je vous dis. C'est ma femme qui m'y a quasiment contraint, pas pour ces raisons-là d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que je travaille en équipe, c'est-à-dire au lieu d'être tout seul devant mon clavier toute la journée en me demandant si ce que je fais est beau et en y apportant moi-même la réponse, cette fois-ci, je travaille en équipe et je parle à des gens et on élabore des projets. Et la vie a beaucoup changé grâce à ça. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Philippe Collard d'être venu bavarder un petit peu avec nous, nous avoir permis de mieux vous connaître. Je rappelle que vous êtes pianiste, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, premier prix de piano en 64 et puis que vous recevez en 1988 Victoire de la musique et que nous pouvons écouter les concerts que vous dirigez aux Flâneries musicales de Reims chaque année, donc fin juin, début juillet, et nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci d'être venu au studio de Canal Académie.
Merci à vous.